Pour moi, mes archives, c'est Jésus-Christ. Mes archives inviolables, c'est sa croix, sa mort et sa résurrection et la foi qui vient de lui. C'est ainsi que s'exprime Saint Ignace d'Antioche, avec nous pour nous parler des pères, Michel Fédoux, jésuite, spécialiste des pères de l'Église. Comment les avez-vous rencontrés ?
J'ai rencontré les pères de l'Église à Lyon, la ville où je suis né et où j'ai fait mes premières études. Lyon est une ville très marquée par le souvenir des pères de l'Église, avant tout les chrétiens qui sont morts martyrs en l'année 177, et bien sûr la grande figure de Saint Irénée. Durant mes études à Lyon, j'ai appris le grec, la langue latine, et je me suis spécialisé dans la littérature grecque ancienne. Et après avoir beaucoup travaillé sur les auteurs tels que Démosthène ou Sophocle ou Platon ou Cicéron, j'ai été progressivement attiré par les écrivains chrétiens de langue grecque ou latine. Et c'est ainsi que j'ai découvert peu à peu les pères de l'Église, alors que j'étais étudiant en faculté des lettres. Et je les ai découverts en particulier grâce à l'Institut des sources chrétiennes qui édite et traduit des textes patristiques et qui est situé dans la ville même de Lyon. Une fois devenu jésuite, après avoir fait mes premières études de théologie, j'ai commencé un doctorat de théologie qui portait sur Origène, précisément sur la confrontation du christianisme et des religions païennes dans l'œuvre apologétique d'Origène.
Pourquoi est-ce qu'on appelle les pères de l'Église des pères ?
Parce qu'ils ont été reconnus comme ayant puissamment contribué à engendrer la foi des chrétiens, la foi de la communauté chrétienne au long des siècles. On a pris l'habitude d'appeler pères de l'Église des écrivains chrétiens qui avaient particulièrement contribué à susciter, ou en tout cas à favoriser le développement de la foi dans les communautés chrétiennes.
Vous avez dit un mot, ils ont engendré la foi chrétienne.
Oui. Les pères de l'Église sont des auteurs chrétiens qui nous ont précisément aidés à entendre et à accueillir et à interpréter la parole de Dieu et à en vivre. En ce sens-là, qui sont pour nous des pères, qui sont nos pères dans la foi.
Et pour Origène, qui est certainement pour vous un ami, qu'est-ce qui vous a fasciné chez Origène ?
Deux choses. D'abord, sa très profonde familiarité avec l'écriture. Origène est quelqu'un qui a commenté toute l'écriture abondamment, même si une partie de son œuvre ne nous est pas parvenue. Mais il nous reste tout de même de nombreux textes d'Origène. Donc une familiarité profonde des écritures et une capacité étonnante à faire goûter la parole de Dieu en la laissant résonner dans toutes ses harmoniques et notamment dans sa portée spirituelle, dans son sens spirituel le plus profond. Ça, c'est un premier aspect. Et le second aspect qui m'a fasciné chez Origène, dès que j'ai appris à le connaître, c'est la manière dont il a su témoigner de la foi au Christ dans l'actualité de son temps, en particulier en acceptant de répondre aux redoutables accusations qu'un philosophe païen nommé Cels avait formulé contre le christianisme.
Si Origène était avec nous, quels seraient ses défis ?
Je pense qu'il aurait le souci d'exhorter et d'encourager les communautés chrétiennes à se nourrir toujours plus de la parole de Dieu.
Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ ?
Oui, c'est une formule qui, je crois, est de Saint Jérôme, mais c'était tout à fait la pensée d'Origène. Plus on connaît l'Écriture, plus on apprend à connaître le mystère du Christ et précisément on n'a jamais fini de le connaître. Donc certainement Origène serait sensible à cette exigence qui était justement rappelée par Vatican II, mais qui reste toujours à accueillir aujourd'hui, mieux connaître l'Écriture pour mieux connaître le Christ.
Vous dites qu'Origène donne le goût des Écritures. Comment est-ce qu'il nous le donne ?
Lorsqu'Origène commente, par exemple, la prise de Jéricho dans le livre de Josué. Il commence bien sûr par expliquer le sens littéral de cet épisode que l'on lit au livre de Josué. Mais il ne s'en tient pas là. Et il invite ses auditeurs à entrer dans une intelligence plus profonde du texte biblique et à découvrir comment, par exemple, Josué, victorieux de la ville de Jéricho, préfigure en quelque sorte le Christ, victorieux des puissances du mal. Ou encore, il montre comment la victoire remportée sur cette ville de Jéricho, telle que la raconte le livre de Josué, annonce de façon voilée le combat spirituel auquel tout chrétien est appelé, s'il entend précisément venir à bout, grâce à l'Esprit du Christ, des puissances du mal qui risquent de l'attaquer. Et par cela, il donne vraiment goût à la lecture de l'Écriture.
Quelle est l'anthropologie des pères ?
C'est une anthropologie, évidemment, diverse, suivant les auteurs.
Et aujourd'hui, l'homme contemporain, à quelle anthropologie est-il plus sensible ?
L'homme contemporain est sans doute plus sensible à une anthropologie unitaire, une anthropologie qui prend en compte la totalité du composé humain. L'anthropologie contemporaine est très, très sensible à l'exigence de respecter pleinement le composé humain et notamment de donner à la corporéité toute l'importance qui est la sienne, le rapport au monde, le rapport à autrui.
Les pères de l'Église faisaient-ils attention justement au corps ?
Beaucoup plus qu'on ne l'a dit. Et lorsque les pères de l'Église, et je pense en particulier aux pères du désert, tiennent des propos qui, à première lecture, semblent déconsidérer ou déprécier quelque peu la corporéité, il ne faut pas en rester à cette première impression, il faut se rendre compte qu'en réalité, ils ont le souci d'une corporité qui soit autant que possible docile à l'esprit. Ils se rappellent le mot de saint Paul, le corps comme temple de l'esprit. Et donc, s'ils parlent de façon parfois négative du corps comme devant être soumis parce qu'il est toujours soumis à la tentation, il risque toujours d'être emporté par les tentations de la chair, etc., il faut comprendre que ces avertissements, ces mises en garde ou même ces dénonciations sont la contrepartie d'une réelle estime de la corporéité qui, comme telle, doit être habitée par l'Esprit de Dieu.
Un corps habité par l'Esprit, donc un corps habité par les germes de la résurrection.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Puisque l'Esprit est déjà à l'œuvre pour les pères de l'Église. L'Esprit nous est donné dans le baptême, par le baptême. Et tout au long de notre existence chrétienne, l'Esprit est à l'œuvre, le même Esprit qui donne la vie, qui donnera la vie au corps dans la résurrection.
Comment parle-t-il de la vie éternelle ?
Certainement, l'une de leurs convictions, c'est que la vie éternelle commence dès maintenant. La vie éternelle, nous en possédons les arts, comme dit saint Paul. Nous avons déjà les premiers fruits. Mais cette vie éternelle, elle est appelée à se développer, à croître, et elle ne sera reçue en plénitude que moyennant le passage par la mort, conçue comme nouvelle et pleine et définitive naissance à la vie même de Dieu.
Quelles sont les images qu'ils emploient pour parler de l'au-delà ?
Ils reprennent souvent les images du Nouveau Testament, l'image même de la vie. Commencer par là, une vie éternelle, une vie pour toujours, mais aussi d'autres images que l'on trouve dans les évangiles, à commencer par la métaphore de l'éveil, la métaphore de la station debout, être debout, être éveillé, ce sont autant d'images de cette vie éternelle à laquelle nous sommes appelés. Dans les homélies, certaines homélies d'Éphrem, qui n'hésite pas à reprendre l'image du jardin irrigué par les fleuves au paradis, l'image de l'arbre et de ses fruits, pour évoquer cette vie éternelle à laquelle nous sommes appelés et qui doit être marquée par la béatitude, par le bonheur de la présence à Dieu.
Est-ce que vous êtes aussi professeur ? Est-ce que l'enseignement des pères de l'Église vous donne beaucoup de joie ?
Oui, certainement. Certainement. En fait, il y a plusieurs types d'enseignements. Mais je donne aussi des enseignements qui sont destinés à des gens qui souvent n'ont jamais entendu parler des pères de l'Église ou ne les connaissent pratiquement pas. Et je découvre que cette rencontre des pères de l'Église est vraiment une nouveauté pour eux. Ils sont tout étonnés de réaliser que des auteurs chrétiens, il y a si longtemps, ont pu s'exprimer de façon si nourrissante, si spirituelle, si profondément spirituelle sur l'Écriture sainte et sur un certain nombre de questions de leur temps.
Les pères de l'Église utilisent beaucoup d'images.
C'est vrai que la théologie patristique, la théologie des pères de l'Église, est une théologie nourrie d'images et de symboles. L'un des textes qui ont été commentés par Origène, Grégoire de Nice ou d'autres pères de l'Église, c'est le Cantique des Cantiques. Le Cantique des Cantiques abonde en images de toutes sortes, l'arbre, les fruits de l'arbre, le jardin, bien sûr l'image nuptiale, l'époux et l'épouse, le bien-aimé, la bien-aimée.
Pour eux, c'est quoi l'arbre ?
L'arbre, pour eux, c'est d'abord l'arbre du paradis, ou les arbres du paradis. Mais l'arbre, c'est aussi pour eux l'arbre de la croix, le bois de la croix. Et donc, ils font jouer le lien entre le texte de la Genèse, les premiers chapitres de la Genèse, et les récits relatifs à la croix du Christ, en montrant comment le Christ accomplit l'Écriture ancienne.
Imaginons que dans ce studio arrive un homme qui vient de rencontrer le Seigneur Jésus, qui n'y connaît rien. Qu'est-ce qu'Origène lui dirait ?
Origène, probablement, l'inviterait à lire l'Écriture, ou à relire l'Écriture. Et il l'inviterait à découvrir comment cette Écriture, cette parole de Dieu, une fois accueillie, serait à même d'aider cette personne à comprendre ce qui lui arrive, à l'identifier, à le nommer et à en vivre davantage.
Peut-on dire qu'Origène est un maître de l'intériorité ?
Ah, certainement. Origène insiste avec beaucoup de force sur le fait que la parole de Dieu doit faire son chemin dans l'âme du croyant. Elle n'est pas faite simplement pour être entendue de manière extérieure, mais elle doit pénétrer l'âme du croyant. Origène aime bien utiliser des formules de ce genre. À quoi sert-il que le Verbe de Dieu soit né une fois dans l'histoire s'il ne vient pas naître chaque jour en toi ?